Séquence Midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, bienvenue dans votre magazine quotidien composé de découvertes musicales, de vos sorties à Poitiers et ses environs et surtout de rencontres autour de l'actualité. Certains parlent d'attaque contre la démocratie ou de trumpisation de la vie politique française. Dans un objectif d'économie, les députés réfléchissent à supprimer des organisations consultatives comme les CESER, les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. On en parlera avec le président du CESER de Nouvelle-Aquitaine en seconde partie d'émission. Mais d'abord, on parle agenda culturel avec la création de flûtes. Et pour en parler, Cyril Julien, l'un des créateurs de cet agenda, bonjour.
Bonjour.
Et Pauline Bonneau-Debord, qui est à la communication pour Oriou, donc coopérative culturelle, bonjour.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être là pour cet agenda qui vient de naître. Alors d'abord, Cyril Julien, peut-être parlez-nous de votre parcours et comment vous arrivez à la création de flûtes.
Alors rapidement, moi je travaille depuis 2006 à l'affichage et à la distribution culturelle dans le département. Du coup, c'est assez logiquement qu'on en est arrivé sur un projet d'agenda culturel papier et web. Voilà.
Donc, et quelle était l'idée de départ? Est-ce qu'il y a un manque sur Poitiers? C'est vrai qu'il existe par exemple l'affiche hebdo. Comment ça se positionne par rapport à ce genre de publication?
Alors déjà, nous, on est spécialisés et on va dire aussi engagés pour la culture. Ce qui nous différencie, c'est qu'on va pas être vraiment sorti loisir comme d'autres. On a fait des choix pour ça. Un des premiers choix, c'est de mettre un ou une artiste en couverture qu'on va payer et soutenir et mettre en avant. Ensuite, on travaille avec Quartier Libre, que vous connaissez bien à Pulsar a priori, qui nous prépare du rédactionnel, voilà, qui est quand même une assez grosse différence par rapport à ce qui est proposé aujourd'hui.
Émission culturelle le vendredi soir, tous les 15 jours, sur Pulsar.
Exact. Ensuite, on essaye d'avoir ce qu'on appelle du publi rédactionnel à l'intérieur, donc de ne pas se contenter de faire du transfert de visuels ou d'affiches qu'on nous donne, mais de donner un maximum d'informations sur qui sont les acteurs, qui participent et les spécificités des événements qu'on met à l'intérieur.
Alors, vous insistez sur ce terme agenda, c'est pas un magazine, c'est pas un journal.
Non, c'est un peu hybride, donc c'est pas facile à expliquer. Alors, maintenant qu'on est arrivé bientôt au numéro 2, on arrive un peu mieux à parler de ce projet. Au départ, même nous, on s'y perdait un peu. Ce côté hybride avec un peu de rédactionnel, ça vient aussi du fait qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on aurait envie de lire à l'intérieur d'un format papier. Et là-dessus, on s'est penché sur le côté contenu, du coup. Voilà.
Et Pauline Bonneau-Debord, alors cette publication est portée sur un modèle particulier qui est celui de la coopérative. Comment justement ça se met en place?
Eh bien, en fait, ce qui est intéressant avec le projet de flûte, c'est que c'est un projet qui a été porté avec plusieurs entrepreneurs, personnes qui nous ont rejoints, donc Cyril et Benjamin. Donc, ils ont intégré la coopérative, comme toute personne qui nous intègre, ils ont un statut d'entrepreneur accompagné par la coopérative. Et donc, ils bénéficient de notre accompagnement, à la fois sur le développement de cette activité, éventuellement du conseil, s'ils ont des questions spécifiques. Et puis, bien sûr, donc ils sont hébergés juridiquement et par la coopérative. Voilà. Donc nous, on est spécialisés culture, donc c'est vrai que c'est un projet qui valorise vraiment le territoire, qui valorise les projets culturels, donc c'est complètement dans notre champ d'action.
Et justement, comment vous bénéficiez de ce côté coopérative quand on se lance dans une activité? Qu'est-ce que ça peut apporter?
Alors déjà, ce qui est agréable, c'est qu'il y a de l'expérience et de la compétence quand on fait les premiers rendez-vous pour délimiter par exemple un projet et aborder des aspects auxquels on n'aurait particulièrement pas pensé. Et ce qui est vraiment bien aussi, c'est le suivi. Mais je pense que ça, je pourrais en parler mieux que moi.
Comment on suit effectivement les porteurs de projets au long cours pour qu'après ils deviennent une activité à part entière?
Oui, alors tous les entrepreneurs, enfin, je dis le terme entrepreneur, ça peut être des artistes ou des artisans qui nous rejoignent, ont déjà une formation d'accueil quand ils intègrent, donc sur à peu près une semaine, sur vraiment des questions techniques, sur la prise en main du logiciel de gestion par exemple, mais aussi sur des aspects communication ou développement d'activité, positionnement. Et au fur et à mesure de leur présence dans la coopérative, ils vont aussi avoir un suivi donc individuel individuelle avec des chargés d'accompagnement qui sont dédiés à chaque porteur de projet, chaque entrepreneur, qui connaît bien donc le projet, qui sait où ça en est, qui fait un point régulier. Alors, je ne sais pas quels sont les rythmes pour vous, mais ça peut un peu évoluer selon les projets aussi. Et donc, un suivi développement, mais aussi un suivi sur toute la partie comptable financière.
Et justement, quel est le modèle économique d'un agenda comme Flut ?
Alors ça, oui, c'est assez particulier. En gros, c'est un modèle en quart payant. Après, dans la volonté de représenter au mieux la diversité culturelle du département et même un peu à côté, on a décidé de pratiquer des tarifs très bas pour les premiers prix des encarts. Et on s'est rendu compte très vite, mais ça on le savait, qu'on allait être dans une démarche aussi de soutien en faisant soit des budgets participatifs, voire des gratuités à des lieux qu'on considérait comme incontournables et qui aujourd'hui n'ont pas les moyens d'investir dans ce genre de communication.
Oui, on l'entend, hein, vous parlez de revues engagées. Comment vous avez défini un peu votre ligne éditoriale ?
Alors, elle se définit plus par les choix qu'on va faire justement à ce niveau-là. Maintenant, on ne veut pas non plus être trop étiqueté parce qu'on a vraiment envie de représenter toute la diversité du spectre culturel, vraiment du plus populaire au plus spécialisé, du plus petit projet associatif au plus gros spectacle. C'est un peu un enjeu. Donc ensuite, ouais, ça, c'est vraiment dans les choix d'artistes avec lesquels on va travailler. Ça va être aussi dans le choix qu'on a fait de travailler avec Quartier Libre, qu'il y a des choses qui vont être représentées plus ou moins fortement à l'intérieur, quoi.
Et justement, comment ce partenariat avec Quartier Libre s'intègre dans la revue ? Donc, il y a 4 pages, un peu justement Quartier Libre pour cette émission. Ouais. Voilà, comment se fait le partenariat ?
Eh ben nous, on leur donne complètement carte blanche. Ils décident du contenu qu'ils veulent mettre. Après, Agathe Gallo et Antoine, Antoine, on s'est rencontrés plus récemment, mais Agathe, on avait déjà pas mal travaillé ensemble. Donc, c'est une relation, on va dire, de complète confiance là-dessus. Aussi, c'est important pour nous d'avoir dit que c'était vraiment une liberté pour eux de pouvoir exercer ce qu'ils avaient envie de mettre et de travailler.
Alors, vous avez choisi une revue en ligne et aussi papier. Ce côté papier, on peut se dire en 2025, est-ce que c'est pertinent ? Les gens peuvent se poser la question.
Exact, on nous l'a beaucoup dit. du coup, bon, on a fait un peu des études sur le terrain. On a discuté un peu avec des gens un peu partout. On s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il y avait un constat sur Internet qui, par rapport aux annonceurs qu'on veut mettre en avant, en tout cas, qu'il n'y avait pas d'endroit où on pouvait les trouver regroupés finalement. Il y a une énorme diversité de choses sur Internet, mais on peut s'y perdre un petit peu. Donc, vu que nous, on a une connaissance quand même du réseau culturel du département, on met en avant ça pour regrouper, surtout. Ensuite, le format papier, c'est un gros sujet parce que on se rend compte qu'il y a vraiment une demande sur le terrain de gens qui veulent un format papier encore aujourd'hui. Pour nous, par contre, il n'y a plus les arguments de l'époque, à savoir plus on édite en termes de quantité, plus on a d'impact. Nous, notre démarche là-dessus, c'est de faire le juste nombre d'exemplaires. Pour l'instant, on a commencé à 6000, pour vous donner un ordre d'idée. Et on n'a pas forcément les perspectives d'aller beaucoup, beaucoup au-delà. Parce que pour nous, l'important, c'est que surtout le support soit pris et lu et qu'il ne soit pas jeté à la poubelle et laissé de côté, quoi.
Oui, puis le papier a un coût aujourd'hui.
Exact.
Et justement, vous diffusez dans quel lieu ?
Alors, à terme, on va faire l'ensemble du département. Pour l'instant, on fait Châtellerault, Poitiers et l'axe Chauvigny-Lusignan. Encore une fois, par contre, notre cœur de métier, c'est la distribution culturelle et l'affichage. Du coup, on va mettre en place des outils spécifiques. Parce que autant on n'était pas très fort pour s'organiser pour l'instant pour l'agenda culturel en lui-même. Autant, par contre, sur le terrain, pour distribuer, c'est vraiment quelque chose que je connais et qu'on connaît depuis très longtemps.
Et alors, vous avez décidé de créer une soirée spécifique pour le lancement. C'est des choses qui vont se reproduire. Vous voulez créer un peu l'événement aussi ?
Exact. D'ailleurs, on est en train de travailler sur une soirée le 16 mai. Je ne peux pas encore vraiment l'annoncer parce que tout n'est pas encore calé. Mais à côté de l'agenda culturel, on veut aller dans la création d'une association. et de faire des événements à terme à chaque sortie tous les deux mois pour mettre en avant des associations, des annonceurs qu'on aura sélectionnés et puis mettre des artistes aussi sur le terrain. Donc voilà.
Un dernier mot peut-être pour vous, Pauline Bonneau-Debord. Pour Oriou, comment on fait pour que voilà, maintenant ça prenne son envol et comment vous les accompagnez ?
Alors, ce n'est pas moi qui les accompagne en direct. Donc, j'ai quand même l'impression qu'ils ont bien avancé déjà sur leur premier projet qui était de pouvoir bien définir aussi l'offre et puis de lancer. En fait, c'était quand même la première partie, c'était faire le premier lancement. Là, ça va plutôt être sur un accompagnement plus technique, sur des outils d'organisation. Et puis, au fur et à mesure des nouveaux épisodes, il y aura peut-être de nouvelles questions qui arriveront. Et je pense que, avec votre chargé d'accompagnement, vous allez aussi pouvoir faire ça. Et puis, après, ça va être toutes les interactions aussi de la coopérative avec les autres entrepreneurs, les autres personnes. Est-ce qu'il y a des perspectives de développement qui se font en commun, voilà.
Et vous, Cyril Julien, qu'est-ce qu'on vous souhaite ? Quelles sont les prochaines étapes pour Flûte ?
Déjà, on va essayer de survivre économiquement pendant un an. Ce serait bien. C'est bien parti pour. Et puis de développer plein de nouvelles rubriques, plein de nouveaux projets autour de ça pour être vraiment un moteur un petit peu de ce milieu culturel qui, il faut quand même le dire aussi, est un peu en berne en ce moment avec ce qui se passe politiquement. Donc on espère vraiment pouvoir faire un peu bouger les choses et soutenir tout ce qu'il y a à soutenir, quoi.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans Séquence Midi. Ce sont deux jeunes musiciens, ils sont au lycée Victor Hugo. C'est un duo piano-batterie, c'est le duo BAM. Voici un extrait de leur album qui vient de sortir, Pleine Mer.
Pulsar 95.9.
Ah ouais.
Et on accueille maintenant Yves Jean, président du Césaire Nouvelle-Aquitaine. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous quelques jours après un examen de projet de loi qui porte sur la simplification de la vie économique et notamment le fait de supprimer certaines organisations consultatives comme les Césaire, Conseil économique et social pour les régions. Peut-être redire à nos auditeurs quel est le rôle d'un Césaire qui sont présents dans chacune des régions françaises, donc Conseil économique, social et environnemental régional. À quoi ça sert ? Qui êtes-vous ?
Alors, bonne question, car c'est une institution qui est, c'est l'autre assemblée qui est à côté du conseil régional. Les citoyens élisent les conseillers régionaux et le président ou la présidente du conseil régional, Alain Rousset en Nouvelle-Aquitaine. Et à côté de cette assemblée, il y a une autre assemblée composée de 180 conseillères et conseillers, représentant 110 organisations, les syndicats étudiants. Sont dans ce conseil, l'UNEF et la FAGE, avec un conseiller de l'Université de Poitiers. Et il y a dans, parmi ces 110 organisations un collège des employeurs où il y a le MEDEF, l'U2P, la CPME, l'ensemble des chambres consulaires, les syndicats agricoles, l'ensemble des employeurs, la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. Un deuxième collège constitué de toutes les organisations syndicales en fonction de leur représentativité, de la CGT à la FSU en passant par Sud ou FO et la CFDT bien sûr, et puis et l'UNSA, etc. Et puis un collège de la vie associative, des mouvements d'éducation populaire, des associations culturelles, et ce qui était évoqué dans le début de l'émission résonne, je dirais, avec ce que l'on fait au niveau du Césaire, l'enseignement supérieur et la recherche, etc. Et notre mission, c'est d'une part d'émettre des avis sur toutes les principales politiques majeures de la région. Je donne un seul exemple, le schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Le Césaire émet un avis avant que ce schéma ne soit adopté par les élus régionaux. On émet des avis sur toutes les questions budgétaires, sur les contrats de plan, etc. Et puis, nous pouvons être saisis par le président de région de sujets. Il se trouve qu'Alain Rousset a saisi le Césaire Nouvelle-Aquitaine sur un sujet passionnant, c'est la question des écrits de celles et ceux qui se disent invisibles, c'est-à-dire au moment du mouvement des Gilets jaunes. On travaille actuellement sur les cahiers de doléances des Gilets jaunes. Et puis on peut se saisir de sujets, et parmi les sujets sur lesquels nous travaillons, il y a un sujet auquel je suis attaché en tant qu'ancien président de l'Université de Poitiers, c'est le fait que le taux de réussite au bac est très élevé en Nouvelle-Aquitaine, mais que le taux d'accès à l'enseignement supérieur est un des plus faibles en France. Et donc ça, c'est un vrai problème d'ascension sociale. On voit bien que des lycéens et des lycéennes issus de milieux, je dirais, moins favorisés que les classes moyennes, supérieures, etc., pensent que l'université ne c'est pas pour eux. On regarde si ce sont des questions de logement, de questions de frais de transport, etc. Voilà, on travaille sur ce sujet pour faire des propositions au conseil régional pour qu'il adapte et qu'il fasse évoluer sa politique en faveur de l'accès à l'enseignement supérieur. On travaille sur plein d'autres sujets que je pourrais évoquer avec vous.
Et quelle a été votre réaction lors de ce projet de loi ? C'était la semaine dernière.
Ouais, écoutez, cela fait depuis 10 ans que le Rassemblement national est pour la suppression des conseils économiques, sociaux, environnementaux. Pourquoi ? Parce que c'est le lieu de la démocratie sociale au niveau régional, et on voit bien que le Rassemblement national ne veut pas de lieu où les citoyens ou ceux qui ont des responsabilités puissent émettre des avis sur les politiques publiques. Ce qui est plus grave, c'est que lors de cette commission spéciale, les députés LR, les députés Horizon et quelques-uns d'autres ont voté cet amendement, et cela correspond à ce qui se passe depuis 2-3 mois dans ce pays, c'est-à-dire que cette petite musique trumpiste d'Elon Musk qui consiste à supprimer tous les corps intermédiaires, à supprimer les lieux de connaissance. Vous êtes une radio que je connais bien, voilà, qui irrigue la communauté universitaire. Quand on voit aux États-Unis que tout ce qui relève du changement climatique, tout ce qui relève du genre, etc., devient non grata, et que l'on retire tout cela en termes et qu'on ne soutient plus les laboratoires qui travaillent sur ces sujets, on voit que cette petite musique est en train d'envahir la classe politique française, et pas seulement l'extrême droite. Et puis, je suis surpris de voir des députés républicains flirter avec le Rassemblement national. C'est pas comme cela que l'on peut combattre, des idées qui entraînent une régression de la démocratie. Notre institution, à l'échelle régionale, c'est un lieu unique où c'est le seul lieu où le MEDEF et la CGT, la CFDT et les agriculteurs, la Fédération nationale de l'environnement, la FNE, la LPO, travaillent avec les agriculteurs, avec les chasseurs, avec les pêcheurs. C'est un lieu où il y a beaucoup de respect entre les uns et les autres, où on aborde les sujets qui concernent l'intérêt régional et la vie quotidienne des Néo-Aquitaines et des Néo-Aquitains. Et on arrive à avoir des analyses partagées et à faire des préconisations qui sont votées à 90-95% par la société civile organisée. Et cela, c'est très utile aussi pour faire évoluer les politiques publiques régionales. Et manifestement, le RN qui souhaite accéder au pouvoir ne souhaite pas que cet élément de la démocratie vivante, de la démocratie sociale, continue. De ce point de vue, j'étais un peu rassuré mardi, puisque j'étais au Conseil économique, social et environnemental de la République à Paris, où François Bayrou intervenait. Et en tant que Premier ministre, il a rappelé que le gouvernement était très favorable au maintien des Césaires, que c'était des lieux très très importants en termes de démocratie sociale. Et donc, je dirais que les partis de gouvernement, comme l'ensemble des partis de gauche, soutiennent notre présence et notre existence. Mais je suis inquiet de voir cette petite musique qui envahit beaucoup de sujets, qui se traduit aussi par des régressions concernant la place des femmes dans la société. Enfin voilà, je suis assez inquiet de ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays.
Alors l'argument, c'est la simplification de la vie économique, c'est aussi forcément faire des économies. Vous parliez de collaboration avec le Conseil régional. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de travaux faits par le Césaire et qui ont pu faire avancer une politique régionale, pour que ce soit peut-être plus concret pour celles et ceux qui nous écoutent?
Vous avez raison de me poser cette question. Je vous cite le dernier rapport que l'on a publié, qui a marqué beaucoup les élus régionaux. On a publié un rapport qui est sur le site du Césaire, que j'invite vos auditrices et auditeurs à regarder. C'est « Enrayer la fabrique de la pauvreté ». Dans ce rapport, on montre que 30% des habitants de la région Nouvelle-Aquitaine vivent dans ce qu'on appelle un halo de pauvreté, c'est-à-dire qu'ils ont des difficultés pour s'alimenter, ils ont des difficultés pour se déplacer, ils ont des difficultés pour accéder à un logement, et un logement qui ne soit pas une passoire énergétique. Et donc, cette pauvreté, elle concerne essentiellement des familles monoparentales, c'est-à-dire des femmes, 90% qui élèvent seules leurs enfants. Elle concerne, et vous le savez bien, beaucoup de jeunes et des étudiants. Je rappelle qu'en 2012, quand j'ai été élu président de l'Université de Poitiers, j'étais un des premiers à mettre en place une épicerie sociale et solidaire qui continue d'être très utile sur le campus, parce que j'avais découvert en discutant avec les assistantes sociales que nombre d'étudiants n'avaient pas suffisamment d'argent pour accéder au repas du Crous, même s'ils ne sont pas élevés. Donc une pauvreté qui concerne aussi les jeunes salariés, qui concerne des agriculteurs à la retraite, etc. Et ce rapport a vraiment alerté Alain Rousset et les élus régionaux. Et aujourd'hui, dans toutes les politiques publiques qui sont mises en place, en faveur des lycées, en faveur de la transition écologique et environnementale, je pense à Néotera, le Conseil régional intègre des mesures sur nos propositions qui permettent de réduire les inégalités sociales, parce que de fait, c'est un enjeu majeur pour le vivre ensemble, pour la cohésion sociale de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, de façon très concrète, ce rapport qui a été présenté aujourd'hui dans une quarantaine de territoires, de Mont-de-Marsan à Poitiers, au Toit du Monde, à Oloron-Sainte-Marie, ou à Niort, etc. C'est un exemple très concret de la façon dont on peut influer sur les politiques du Conseil régional.
Donc la prochaine étape, c'est un vote la semaine prochaine en Assemblée. Pendant ce temps-là, quelle est votre action? Tous les Césaires se mobilisent pour justement montrer leur utilité sur le territoire?
Oui, depuis une dizaine de jours, on se mobilise et à l'échelle nationale et dans chaque région. Moi, j'ai appelé une vingtaine de députés de Nouvelle-Aquitaine, de tout bord, excepté bien sûr le Rassemblement national, mais des députés d'Horizon, du PS, du Modem, etc. Les quatre députés du département de la Vienne soutiennent le Césaire, que ce soit Lisa Bellucot, Sacha Houllier, Nicolas Turquois ou Pascal Lecan. J'ai fait le tour de nombre de députés, dont Florent Boudier, le président de la commission des lois, qui est un député de Gironde, et qui m'a assuré qu'il a déposé un amendement pour le maintien des Césaires. Et puis au niveau national, on a rencontré l'ensemble des présidentes et présidents de groupes. Mais on reste quand même inquiet. Donc on a énormément de soutien à l'ensemble des organisations syndicales, mais aussi l'UDP, la CPME, des organisations patronales ont apporté leur soutien. Et bien sûr, le mouvement associatif a apporté aussi son soutien, parce que les uns et les autres savent que dans les régions, on joue un rôle très important. Et vous évoquiez la question financière sur un budget de 3,3 milliards d'euros au niveau du Conseil régional. Le budget du Césaire, c'est 0,18% du budget. Donc, c'est une vraie démagogie de la part de l'extrême droite de vouloir supprimer le Césaire. Mais c'est une vraie atteinte à la démocratie et c'est très inquiétant pour l'avenir.
Merci beaucoup Yves-Jean, président du Césaire Nouvelle-Aquitaine, d'être passé dans Séquence Midi pour nous expliquer les enjeux qui se jouent donc à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Merci beaucoup.
Merci à vous, merci à Radio Pulsar.
Demain dans le Café de la Presse, on se projettera sur les élections municipales parce que oui, c'est dans à peine un an déjà. Et tout de suite, c'est l'heure de vos idées sorties. On commence par une conférence débat des féminismes, pro-capitalisme et impérialisme et des raisons de les combattre. C'est à 14h à l'Amphi Descartes en SHA, c'est au centre-ville, donc sur l'université de Poitiers. Comprendre la question palestinienne, c'est une proposition à 18h30 au Toit du Monde, au relais Georges Charbonnier, c'est 14 rue du Mouton. Et à l'espace Gartempe de Montmorillon, un spectacle musical, Est-ce ainsi que les hommes vivent? Ça dure 1h15, c'est à partir de 8 ans. Dans ce tour de chanter théâtralisé, Antoine et Léo vous racontent leurs rêves d'enfants, leurs désillusions de jeunes adultes, leur combat pour une société meilleure et leur soif de justice. Les tarifs vont de 5 à 8 euros. Et puis on termine la soirée par les jeudis électro et Despot X. C'est à 22h45 la locomotive Technocore Acide, BPM explosif et kick ravageur. Despot X, pionnier techno depuis les free parties des années 90, débarque à la loco pour un set underground sans concession. L'entrée est libre. Sur Pulsar à 17h, c'est l'émission À ta santé, on parlera d'automédication. À 18h, c'est le Labo des Savoirs. À 19h, Poitou Pop. Et à 20h, Metal Fury. Merci Yann pour la réalisation technique. Ils seront en concert ce soir. C'est Clone, le groupe d'origine poitevine, qui revient donc au confort moderne avec son métal progressif et ses atmosphères aériennes. Ils seront aussi avec Vestiges et Psychiderme. Voici un extrait de leur dernier album qui est sorti cette année, The Unseen. Bon après-midi.